C'est maintenant et c'est pour vous sur Radio Nîmes 92.2.
Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, l'escalier de la vérité nous fait découvrir une très ancienne civilisation maltraitée par l'Occident. Le peuple d'Iran déteste les Britanniques, les Américains et Israël. Ce n'est pas par hasard. Lors de la Première Guerre mondiale, il subit une famine dévastatrice qui tua entre 8 et 10 millions de personnes, soit quasiment le tiers de la population dont le tort était de se trouver coincé entre les appétits britanniques, bolcheviques et ottomans. Pour les Russes, l'accès vital à la mer. Pour les Anglais, le passage vital lui aussi pour accéder à l'Empire des Indes. Pour les Perses, une situation géographique, source de rivalités étrangères. Revenons quelques années en arrière. La Perse est gouvernée depuis 1796 par la dynastie des Qadjars. Le pays est pauvre, le peuple mécontent, l'endettement endémique. Pour entretenir leur vie de nabab, les sultans accordent des concessions aux Européens. En 1901, un Australien, William Knox Darcy, enrichi par l'exploitation minière du Mont Morgan, consacre son oisiveté de nouveau riche à des recherches géologiques. Lors d'un séjour à Paris, il rencontre le général perse Kitagbi, qui justement cherche des investisseurs pour exploiter le pétrole dans ce pays, et un accord est conclu en mars 1901 avec l'appui du Foreign Office. Le droit d'exploitation contre 50 000 livres pour le sultan. La bonne affaire faillit ruiner Darcy. Jusqu'en 1904, pas trace de nafte malgré des recherches difficiles et très coûteuses. L'argent venant à manquer, une compagnie pétrolière anglaise travaillant aux Indes, la Burma Oil Company, investit 95 000 livres en vin. 3 années s'étaient écoulées sans une goutte d'or noir. En revanche, les dépenses s'étaient envolées. Le sultan ayant été renversé, il avait fallu acheter les chefs de tribus locaux et même faire venir un détachement de soldats. Et le 14 mai 1908, une lettre partit de Londres enjoignant de tout arrêter. Et soudain, le 25 mai 1908, le pétrole se mit à jaillir. En 1909, naissait l'Anglo-Persian Oil Company, ancêtre de la British Petroleum. Les déboires n'étaient pas terminés. La mise en production, l'acheminement par oléoduc, la construction d'une raffinerie et la distribution par l'intermédiaire de la Royal Dutch Shell asséchèrent les finances de la compagnie. Par bonheur, deux hommes, l'amiral John Fisher et le premier lord de l'amirauté Winston Churchill, qui lui avait succédé à ce poste, ces deux hommes étaient convaincus que l'avenir de la marine de guerre anglaise n'était plus le charbon, mais le fioul, offrant plus de vitesse et un plus grand rayon d'action. D'autre part, la Royal Dutch Shell risquait de mettre la main sur les puits de Perse. Et même si son directeur était anglais, elle était sise en Hollande et donc susceptible de se trouver récupérée un jour par un envahisseur, l'Allemagne par exemple. Suite à un discours enflammé prononcé par Winston en juillet 1913, la Grande-Bretagne investit 2 200 000 livres dans l'Anglo-Persian contre 51% du capital et en resta actionnaire jusqu'en 1987. Les Anglais n'avaient aucune intention de lâcher un tel morceau. La Perse fut le pays qui connut le plus de victimes lors de la Grande Guerre, loin devant la France et l'Allemagne. Cela ne fut pas sans conséquence dans les mémoires. C'est à ce moment qu'entre en scène Reza Shah Pahlavi, un orphelin de père et mère, recueilli par son oncle, puis qui intègre la brigade cosaque où son maître 90, sa force physique et son caractère bien trempé lui font gravir les échelons. La révolution russe est advenue, les soviétiques ont conquis la Géorgie, l'Azerbaïdjan et le nord de l'Iran à la barbe des britanniques. Le général Sir Edmund Ironside est à la recherche d'une force armée susceptible d'arrêter la progression des rouges. Et au milieu de ses troupes de la brigade cosaque persane qui parfois n'ont pas de chaussures ni de vêtements d'hiver, l'unité de Tabriz sort du lot grâce à son commandant, un certain Reza Shah. Les Britanniques vont pouvoir se replier sur l'Irak et vient le 21 février 1921, date à laquelle Reza participe à un coup d'État qui lui vaut ensuite d'être nommé commandant en chef des armées. Le nouveau pouvoir avait de vastes ambitions, améliorer le sort des ouvriers et paysans, lutter contre les oligarques, embellir les villes, construire des écoles et recruter des enseignants, et puis révoquer le traité anglo-iranien qui est en fait une mise sous protectorat. Le nouveau gouvernement connut pas mal de vicissitudes et au bout du compte, c'est Reza Shah qui devint chef de gouvernement avant de se faire couronner le 25 avril 1926 sous le nom de Reza Shah Pahlavi. On s'interroge encore aujourd'hui sur la main des Britanniques dans la promotion de l'officier Reza. Quoi qu'il en soit, le pays va se moderniser à la façon de la Turquie d'Atatürk. Égalité des sexes, infrastructures modernes, lutte contre les féodalités et le tribalisme, ce qui vaudra l'hostilité des religieux. En 1935, Reza change le nom du pays qui devient l'Iran et se rapproche des puissances de l'Axe. C'est en 1941 que Reza cesse de plaire aux anglo-saxons. Il a l'outrecuidance de refuser de laisser transiter du matériel anglo-saxon à destination de l'URSS au travers de ce qu'on nomme le corridor perse. En conséquence, soviétiques et britanniques envahissent le pays et il est contraint d'abdiquer au profit de son fils, Mohamed Reza Shah Pahlavi, avant qu'on l'expédie en exil à l'île Maurice puis à Johannesburg, où il s'éteindra d'une crise cardiaque à 66 ans. La mainmise sur le pétrole est enfin possible.
On se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes.
Spring was never waiting for us, girl. It ran one step ahead as we followed in the dance. Between the parted pages and were pressed in love's hot fevered iron like a striped pair of pants. MacArthur's Park is melting in the dark, all the sweet green icing flowing down. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it, and I'll never have that recipe again. Oh no. I recall the yellow cotton dress foaming like a wave on the ground around your knees. Like tender babies in your hands, and the old man playing checkers by the trees. MacArthur's Park is melting in the dark, all the sweet green ice flowing down. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it, and I'll never have the recipe again. Sky. And after all the loves
melting in the dark. All the sweet green icing flowing down. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it, and I'll never have that recipe again.
En 1948, lors des Jeux Olympiques de Londres, le nouveau chat rencontre le roi George VI ainsi que les princesses Elisabeth et Margaret. Il vient demander de l'aide aux Britanniques car il est convaincu qu'un soulèvement communiste menace son trône. Les Anglais ne veulent pas s'impliquer afin de ne pas froisser les Soviétiques. Deux ans plus tard, la guerre froide bat son plein et les ressources pétrolières iraniennes attisent bien des convoitises. Elles sont exploitées par l'Anglo-Persian Oil Company ou APOC, dont les Anglais détiennent la majorité des parts. Le chat est un monarque constitutionnel et un certain Mossadegh, très apprécié du peuple, estime que le pétrole doit appartenir aux Iraniens. Mossadegh, un homme complexe. Né en 1882 à Téhéran, il est le fils d'un haut fonctionnaire aux finances et d'une princesse Qajar. Avant que l'état civil ne supprime les titres de noblesse, Mohamed Mossadegh se nommait Mirza Mohammad, prince Mohammad. Ses origines le placent nettement au-dessus de celles de Reza, né pauvre et fondateur de la dynastie Pahlavi. Mossadegh se retrouve orphelin de père à 10 ans. Sa mère se remarie avec le secrétaire privé du Shah, lequel a épousé sa tante. Celui qui sera plus tard Mossadegh est très précoce dans son parcours professionnel. À 9 ans, il est adjoint de son père. À 12 ans, il est employé et salarié par le directeur financier de la province de Khorasan, tout en recevant une formation d'administrateur financier. À 15 ans, il accède au poste. On le surnomme Mossadegh al-Saltaneh, le juste du royaume. Il est à la tête d'une fortune importante, cumulant 4 sources de revenus, l'héritage de son grand-père, l'héritage de son père, la fonction d'administrateur financier et celle de directeur financier. Il est désormais l'un des plus gros propriétaires fonciers du pays et plusieurs membres de sa famille figurent également dans le classement. La révolution constitutionnelle allait bouleverser la vie de Mossadegh, supprimant notamment la fonction d'administrateur financier. Il essaya de se présenter comme député à Ispahan, mais sa candidature ne fut pas retenue car il avait moins de 30 ans. Il n'habitait pas la ville et malgré des recours, il finit par décrocher la représentation d'Ispahan sans pouvoir siéger en raison de son jeune âge. Mossadegh tenta également de s'inscrire aux examens du Collège de sciences politiques de Téhéran, mais comme il n'en avait pas suivi les cours, cela lui fut refusé. Le Shah, ne supportant pas le contre-pouvoir du Parlement, fit donner les canons d'un régiment de Cosaques, annula les élections et remplaça ce Parlement par un haut conseil composé exclusivement de membres de la classe possédante, et Mossadegh en fit partie jusqu'en 1909, où le Shah fut renversé. En mars 1909, Mossadegh est en France pour poursuivre des études en sciences politiques. Puis il se rend à Neuchâtel et y décroche une licence en droit, prépare un doctorat et en juillet 2014 soutient sa thèse et obtient la nationalité suisse. Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, nous retrouverons lors de notre prochaine rencontre Mossadegh, le juste du royaume de Perse.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. the sun, you know what I mean. Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day's done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold word for me. And I'm feeling good. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new